Vous êtes sur RTL.
Excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Ségolène Royal, ancien ministre de l'Environnement, ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique.
Et qui d'ailleurs revient d'Islande. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. D'abord, évidemment, vous avez été ministre de l'Enseignement scolaire, on s'en souvient, candidate à président de la République. Vous aviez d'ailleurs, en 2007, préconisé l'encadrement militaire des jeunes délinquants. Je vais en venir à cet ado de presque 16 ans, qui a braqué son enseignante en pleine classe à Créteil dans son lycée. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, en appelle aussi ce matin à la responsabilisation des familles après avoir annoncé un vaste plan de lutte contre les violences scolaires. Responsabiliser les familles, est-ce que c'est un axe prioritaire ?
Tous les axes sont prioritaires pour éradiquer la violence à l'école. Ce qui est très choquant dans les images que l'on a vues, c'est qu'un enfant de 15 ans, un jeune de 15 ans, puisse autant manquer de repères pour manquer autant de respect à un enseignant et, circonstance aggravante, à une femme. Et la seconde chose qui est très choquante, c'est que personne ne réagit dans la classe. Il n'y a aucun de ses camarades n'intervient pour l'en empêcher. Et même, il y a un deuxième camarade qui vient pour faire des doigts d'honneur devant la vidéo tournée par l'un des leurs. Donc ça veut dire que ça, dans le groupe classe, déjà, il y a une déréglementation, une perte de repères.
Comment on restaure l'autorité ?
Qui est inquiétant.
Comment on restaure précisément l'autorité des enseignants ? Puisque c'est un des enjeux, effectivement.
On restaure l'autorité des enseignants en ayant un lien très étroit entre l'école et les parents. Je crois que c'est ça qui prime.
Donc il a raison, le ministre de l'Éducation, ce matin, de mettre l'accent là-dessus.
Bien
la
sûr,
responsabilisation.
Il a raison, mais je crois que ça ne suffit pas. Et sans vouloir polémiquer, est-ce que c'est vraiment le moment d'annoncer, comme il l'a fait, la suppression de 1800 postes dans l'éducation nationale, alors que précisément les enseignants sont de plus en plus confrontés à des problèmes d'incivilité, voire de délinquance?
C'est contradictoire avec les objectifs, donc, vous dites.
C'est contradictoire. Vous savez, il y a quelques années, on avait créé les aides éducateurs. Ça avait été très efficace pour faire baisser la violence à l'école, y compris dans les écoles primaires, collèges, lycées. Malheureusement, ça a été supprimé parce qu'il y a quand même en France une espèce de déficit dans la continuité des politiques. C'est-à-dire on prend plaisir à casser ce qui fonctionne. Or, le gros problème aujourd'hui dans les classes, c'est que quand l'enseignant est seul dans des classes un peu difficiles, et toutes les classes d'adolescents, par définition, sont un peu difficiles, il est évident que l'avenir de l'école, c'est de mettre deux adultes dans les classes. Car comme le disent les enseignants, si on les écoute bien, quand ils mettent déjà un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à rétablir leur autorité, le silence dans la classe, il reste une demi-heure pour transmettre les connaissances. Donc il faut deux adultes dans les classes. L'un parce que ça calme la classe par rapport au problème de désordre dans la classe.
Ce sera un deuxième prof ou ce sera un encadrant?
Non, ce sont des encadrants, mais ça existe déjà. D'accord. Vous savez, ce sont des encadrants qui rétablissent, qui ont un contact individuel avec les élèves, qui peuvent avoir un contact même après la classe avec les élèves, et l'enseignant qui est chargé de la transmission des savoirs. Mais on ne peut pas avoir encore des enseignants qui sont à la fois responsables de rétablir la discipline dans la classe et en même temps la transmission des disciplines.
On ne peut pas faire les deux aujourd'hui, dites-vous, dans un contexte où les élèves sont plus difficiles. Un tout petit mot encore. Évidemment, on va se poser la question aussi de la politique pénale concernant les mineurs délinquants, parce qu'il n'a pas 16 ans encore. Il a encore une peine 50%, enfin deux fois moins importante, que s'il était majeur. Est-ce que ça, pour vous, c'est un souci ? Est-ce que le gouvernement doit se pencher sur les peines ?
Je pense qu'il faut éviter de légiférer chaque fois qu'il y a un incident aussi grave que celui-ci. Pourquoi ? Parce que cet enfant, ce jeune, n'a pas 16 ans. Et par conséquent, il faut une sanction exemplaire. Mais je le répète aussi, une sanction à l'égard de la classe, qui s'est quand même très mal comportée. Mais cette sanction doit être éducative. Parce qu'à 16 ans, on ne doit pas avoir, bousillé sa vie. C'est-à-dire que si une sanction extrêmement sévère, extrêmement éducative, permet à ce jeune de se remettre dans le droit chemin, finalement, ça aura été utile. Et si les autres élèves de la classe aussi...
Ce n'est pas une façon laxiste d'aborder la question.
Ah, je ne crois pas. Je crois que la sanction éducative, ça n'a rien de laxiste. La prévention dans la classe, ça n'a rien de laxiste. La sanction sur le groupe classe, ça n'a rien de laxiste. Et le renforcement renforcement de l'éducation civique à l'école, ça n'a rien de laxiste.
Ségolène Royal, les prix à la pompe ont beaucoup augmenté. Le diesel a rattrapé l'essence et parfois même dépassé. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, mais c'est une bonne nouvelle pour l'environnement.
Absolument pas. Y a une question simple qui se pose. Est-ce qu'il est honnête ou pas de dire que la hausse des taxes sur le gasoil et sur l'essence est une mesure écologique?
C'est Édouard Philippe qui l'a encore assumé dans une interview.
Je pense que ce
J'assume
n'est pas honnête.
J'assume totalement la politique fiscale, la fiscalité verte.
Je pense que ce n'est pas honnête. Pourquoi ? De dire cela. Le précédent gouvernement, d'ailleurs, pour être juste, avait également imaginé cette solution, puisque c'est traditionnellement les ministres des Finances qui cherchent des prélèvements fiscaux en trouvant des excuses pour faire des prélèvements fiscaux. Et je suis très choquée de cette façon de faire, parce que on fait prendre à l'écologie une responsabilité qu'elle n'a pas. C'est ce que j'appelle l'écologie punitive. Qu'est-ce qui s'était passé dans
Vous nous dites que c'est du racket fiscal ?
C'est une forme de... Disons que le mot peut être un peu fort, mais disons que les automobilistes sont pris au piège. Et une véritable fiscalité écologique, c'est une fiscalité qui permet le changement des comportements. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui...
C'est automobilistes, une façon de peser sur les comportements.
Non, absolument pas.
Le parc automobile de diesel s'effondre,
oui,
c'est
quand du jour au lendemain, vous mettez plus 4 centimes sur l'essence et plus 7 centimes sur le litre de diesel, c'est énorme. Est-ce que du jour au lendemain, les automobilistes peuvent vendre leur voiture pour acheter une voiture électrique ou une voiture hybride? La réponse est non. Donc, cette taxation sur l'essence et sur le gasoil, c'est juste faire des impôts supplémentaires, et utiliser l'écologie pour faire ces impôts supplémentaires n'est pas honnête.
Quelle était la stratégie ? Le ministre des Finances, vous avez dit tout à l'heure, c'est le ministre des Finances, c'est toujours le même, d'une certaine façon, qui impose sa politique.
Oui, parce qu'il cherche des prélèvements.
Donc le gouvernement remplit les caisses, point.
Point. Le gouvernement remplit les caisses, point. Et il ferait mieux de remplir les caisses en luttant contre la fraude fiscale des banques, puisque le journal Le Monde a révélé qu'il y avait 55 milliards de fraude fiscale des banques. Ça serait plus intelligent que de taxer, que de prendre au piège les automobilistes et de prendre au piège aussi les retraités. On a vu aujourd'hui les catégories sociales les plus frappées sont les automobilistes, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et plus on habite loin des villes, moins on a de transports en commun parce qu'on ne peut plus se loger dans les centres-villes trop chers, plus ces familles vont être pénalisées parce que parfois, dans les couples, il faut deux voitures
Vous aviez vous-même un temps évoqué une hausse du diesel. Il aurait fallu baisser le prix de l'essence d'autant, en fait ? Vous l'aviez vous-même, justement, pour éradiquer le diesel ?
Alors, il y a deux éléments...
Vous ne le défendez pas, le diesel ?
Il y a deux éléments clés, en effet. La trajectoire fiscale que j'avais mise en place, c'était la baisse de 1 centime sur le prix de l'essence par an, et la hausse de 1 centime sur le prix du diesel par an, et donc sur 5 ans. Aujourd'hui, le gouvernement fait 7 centimes sur le gasoil, et encore l'année prochaine, 6 centimes sur le gasoil. C'est totalement disproportionné.
Vous demandez une pause ?
Il faut absolument arrêter cette hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des dégâts économiques considérables sur les PME, sur les artisans, sur les commerçants, sur toutes les professions.
Alors attendez, l'honnêteté de dire que le parc automobile des professionnels commerciaux, par exemple, n'est pas concerné par cette hausse.
Il doit évoluer, mais c'est pas du jour au lendemain.
Ça épargne les véhicules d'entreprise.
Vous ne pouvez pas du jour au lendemain taxer d'une façon aussi violente les automobilistes et les professionnels qui ont besoin de leur voiture pour travailler, sans prendre l'écologie d'une certaine façon en otage par rapport à ça. Je termine, parce que cette décision, en plus, je pense, n'est pas légale. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas légale ? Parce que l'article 1er de la loi de transition énergétique prévoit que toute hausse de la fiscalité écologique, c'est-à-dire quand on appelle un impôt fiscalité écologique, comme vient de le faire le gouvernement, ce qui n'est pas le cas, comme je viens de le dire, mais puisqu'il appelle cet impôt un impôt écologique, il est obligé, au terme de l'article 1er de la loi de transition énergétique, de baisser à un niveau équivalent les taxes sur les produits écologique. Ce qui veut dire que quand j'avais augmenté de 1 centime par an sur 5 ans le gasoil, en contrepartie, qu'est-ce qui avait été fait ? Le crédit d'impôt de transition énergétique, qui vient d'être supprimé, notamment par exemple pour les doubles vitrages, ça vient d'être supprimé. Les 200 euros pour les vélos électriques, ça vient d'être supprimé. Les 10 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique, ça vient d'être supprimé.
Il reste des incitations fortes.
Autres crédits d'impôt, notamment l'installation de bornes électriques pour favoriser l'achat de voitures électriques, ça vient d'être supprimé. Et les subventions territoire énergie positive viennent d'être supprimées. C'est-à-dire que le gouvernement ne respecte pas l'obligation de la loi qui consiste à dire quand vous faites un centime de plus de fiscalité écologique, vous êtes obligé de baisser un centime ailleurs la fiscalité pour qu'il y ait neutralité fiscale par rapport à l'écologie.
Donc, c'est la loi de 2015, hein, la loi de transition écologique dont vous parlez. Hein. Je voudrais juste vous citer Bruno Le Maire qui était dans l'hémicycle la semaine dernière et justement Éric Woerth, LR, réclamait une pause dans la hausse des carburants, puisqu'en plus, le prix du baril augmente beaucoup. Bref, et voilà ce que lui disait, ça pourrait s'adresser à vous, Bruno Le Maire. Pour aller parler de la banquise qui fond, de la pluie qui tombe trop, du soleil qui chauffe trop, alors là, on trouve du monde. Mais quand il faut le courage d'assumer devant les Français qu'il faut changer notre fiscalité pour qu'elle devienne verte, il n'y a plus personne.
C'est pas sérieux, c'est pas honnête non plus. Comme je viens de le dire, une fiscalité écologique n'a de sens que si ça permet aux gens de modifier leur comportement. Et aujourd'hui, si Bruno Le Maire diminue, par exemple, fait une TVA à zéro sur les voitures électriques, on pourra en reparler. S'il rétablit les 10 000 euros pour l'achat de la voiture électrique, on pourra en reparler. S'il rétablit le crédit d'impôt de transition énergétique, on pourra en reparler. Mais il a cassé tous les leviers positifs de l'écologie positive. Et aujourd'hui, il cherche à justifier une hausse fiscale, un matraquage fiscal par l'écologie, et ce n'est pas honnête.
Un tout petit mot encore, Didier Guillaume a dit vendredi matin sur RTL que c'était aux scientifiques de prouver la toxicité des pesticides. Est-ce que c'est le contraire du principe de précaution qui est dans la Constitution aujourd'hui ?
D'abord, les scientifiques ont déjà démontré depuis très longtemps les dégâts sur la santé des pesticides. Il fallait qu'un seul exemple, hein, le chlordécone aux Antilles, mais ailleurs aussi. Et en tout cas, il n'y a pas une semaine qui ne se passe sans qu'il y ait un recul sur l'écologie et parfois plusieurs décisions négatives.
Le gouvernement,
Une semaine où il n'y a pas un recul sur l'écologie. Et on comprend mieux la démission de Nicolas Hulot parce que je pense qu'il avait pressenti cette dégradation sur les questions environnementales. Il en a déjà subi beaucoup. Il devait entendre ce qui se disait parmi les ministres et parmi le gouvernement. Et aujourd'hui,
vous pensez qu'il savait que ça allait se passer comme ça ?
Je pense.
D'accord.
Il savait ce qui allait se passer quand il devait entendre les réflexions du genre l'écologie, ça commence à bien faire.
Merci beaucoup, Ségane Royal. Vous revenez en politique ?
Bah écoutez, en vous parlant d'écologie,
vous
je crois que c'est le cœur de la politique. Voilà, je viens d'en faire devant vous.
Vous confirmez que vous
non,
serez.
Je viens d'en faire.
Vous refusez d'être tête de liste aux européennes.
On verra,
ça n'est pas confirmé. La porte est encore ouverte. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
On verra, et l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr.